Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez 6ème Science. Je l'ai choisi en connaissance de cause, mais il y a un terme pour le titre qu'on a donné à cet épisode. Un appôt à troll. Si vous l'avez oublié, je vous le redonne volontiers.
La vérité sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid.
Digne d'une couverture de journal un peu racoleuse ou d'une bande-annonce de documentaire Netflix, cette formule choc laisse entendre pas mal de choses. Soit que le doute plane encore sur l'innocuité des injections contre le SARS-CoV-2, soit qu'on a entendu beaucoup de bêtises ou de contre-vérités à son sujet. Après tout, il y a bien des gens pour croire que les seringues contenaient en fait une puce 5G. Rassurez-vous, je ne fais pas que racoler, on a plein de choses vraies à vous raconter. Après ce qui a été la campagne de vaccination la plus large jamais menée en Europe, les centres de pharmacovigilance ont enfin tranché. Il y a bien plusieurs effets indésirables à tester. Et nous allons nous attarder dessus, évidemment. En revanche, la balance bénéfice-risque des vaccins, ARN messager notamment, penche toujours dans le même sens. Elle reste archi-positive. Et c'est avec un poids lourd de science et avenir que nous allons peser les pour et les contre des picous anti-Covid. Je ne fais pas que lui emprunter son savoir, ce titre un chouïa provoque dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est d'abord celui de son dossier paru dans le numéro 924 de Science et Avenir. Désolé pour la pique Hugo, mais elle était de circonstance, et comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Bienvenue dans 6ème Science.
Merci Romain.
Alors est-ce qu'on peut ouvrir cet échange sur un point plus général sur la vaccination? Combien de vaccins ont été inoculés à date, sachant que certaines personnes continuent d'être vaccinées? Et de quel type? Puisqu'on va beaucoup parler, je pense, des vaccins Pfizer, Moderna, Co. Mais il y a plusieurs types de vaccinations qui ont cohabité depuis 2021.
Oui, alors depuis décembre 2020, on va donner déjà le chiffre mondial, c'est 13,5 milliards de doses qui ont été administrées dans le monde. Pour ce qui est de l'Union européenne, donc tu l'as dit en introduction, c'est 900 millions de doses, pour l'essentiel des vaccins à ARN messager. Mais en Chine ou en Inde, ça a été des vaccins plus classiques, un vecteur viral. Donc dans le monde, je ne peux pas te donner la part des vaccins ARN ou non qui ont été administrés. Mais en tout cas, dans l'Union européenne, sur ces 900 millions de doses, on en a 655 millions qui sont de Pfizer et 155 millions de Moderna, soit 90% de vaccination par ARN messager. Pour se concentrer sur la France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, comptait en juin 2023 156 788 000 doses administrées. À peu près, on n'est pas à la dose près. Et parmi lesquelles, on compte 123 573 800 par le vaccin Pfizer et 24 212 300 par le Moderna. Donc pareil, c'est la même proportion, c'est 90% de vaccins à ARN messager.
Une campagne de vaccination de cette ampleur, c'est statistiquement jamais vu.
Sur un laps de temps aussi court, très clairement, puisque quand on parle de 13 milliards de doses au niveau mondial ou des 900 millions sur l'Union européenne, on est de décembre 2020, donc les premières injections, c'est vraiment décembre 2020. À là, février-mars 2024, on n'a jamais vu ça. Alors évidemment, si on prend le vaccin de la rougeole qui est administré depuis 50 ans, il y a eu plus de doses injectées, mais sur un laps de temps aussi court, c'est inédit.
Il faut bien rappeler quelque chose, l'épidémie de Covid a surtout été l'occasion d'un saut technologique remarqué en matière de vaccination avec l'utilisation de vaccins à ARN messager. En quoi c'était une première?
Oui, alors jusqu'à présent, les vaccins, c'était des virus atténués ou alors des virus équipés, qui étaient des virus modifiés, adénovirus, qui étaient équipés de l'antigène qui concernait la maladie contre laquelle on veut se protéger. Et en effet, la grande nouveauté qui a été permise, entre guillemets, par le Covid-19, c'est l'irruption de cette technologie à ARN messager qui était sur la paillasse dans les laboratoires, qui était étudiée depuis 30 ans, en particulier par l'américano-hongroise Katalin Karikó et l'américain Drew Weissman, qui ont entre-temps reçu le prix Nobel de médecine en 2023. Et donc la particularité de cet ARN, c'est qu'on peut le développer beaucoup plus rapidement que les vaccins virus atténués ou adénovirus. Et c'est ça qui a propulsé cette technologie, parce qu'il y avait l'urgence, les gens mouraient. Donc voilà, en janvier 2020, tous les laboratoires du monde, en Occident en particulier, c'est un peu la panique, et on se dit, mais il faut trouver un vaccin, il faut développer un vaccin tout de suite. Sauf que avec les autres techniques, ça prend 2, 3, 4 ans de mettre au point un vaccin en principe. Alors ils l'ont fait plus rapidement parce qu'il y avait l'urgence. Et puis il y a quelques équipes et ces laboratoires, Pfizer et Moderna, qui ont dit « mais attendez, nous on a une technique qui peut aller beaucoup plus vite et c'est l'occasion de la tester ». Pour rappeler un petit peu cette technique, au lieu de se servir d'un virus atténué ou d'un autre virus, les ARN messagers, c'est des bouts d'informations génétiques, des petits bouts de code génétique qu'on peut programmer à l'envi. Et l'idée, là, c'est de programmer un ARN qui correspond à une partie du virus SARS-CoV-2 qui donne la maladie du Covid. Et donc de l'injecter pour que ce soit nos propres cellules qui produisent l'antigène voulu. C'est-à-dire qu'au lieu de coller l'antigène qui doit être reconnu par le système immunitaire sur un autre virus, on le fait produire directement par les cellules.
Et oui, l'antigène, c'est, on va dire, un marqueur qui permet en gros d'identifier la maladie, enfin le virus.
C'est ce qui permet de présenter au système immunitaire ce contre quoi il doit apprendre à se défendre.
Entre la crise du Covid-19 qui devait déjà pas mal les secouer et l'irruption sur le marché de ces vaccins qui avaient toute l'apparence de la nouveauté et donc des risques que ça pouvait laisser entendre, hein, je parle là de risques sanitaires, comment ont réagi les institutions de pharmacovigilance ?
Alors, sur le plan théorique, ça ne change pas grand-chose à leur travail. Ce qui a beaucoup changé, c'est la volumétrie et puis la crainte dans la population que cette nouvelle technologie avait fait émerger. Ça veut dire qu'ils reçoivent énormément de déclarations, qu'on avait une vigilance toute particulière après les injections. Mais sur le plan du boulot, des enquêtes qu'il y a à faire pour identifier d'éventuels effets secondaires, ça ne changeait pas grand-chose. Après, ce qui est très important de rappeler, c'est que si la technique était nouvelle, les essais cliniques qui ont été menés avant de diffuser ces vaccins ont été faits dans les règles de l'art, si je puis dire. Sur chacun des Moderna et Pfizer, c'était environ 30 à 50 000 patients inclus dans les essais cliniques, ce qui était possible notamment parce que l'épidémie faisait rage. Donc on vaccinait des gens, on les lâchait dans la nature avec le virus qui court partout. Et on a vu qu'ils étaient moins infectés, moins malades, etc. Donc il y a des essais cliniques qui ont été menés et durant lesquels la plupart des effets indésirables, fréquents ou peu fréquents, ont été identifiés.
Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que malgré le caractère urgent de développer ces vaccins, les protocoles classiques ont été appliqués.
Oui, en accéléré. On autorise aujourd'hui des médicaments contre le cancer avec des essais cliniques qui sont faits chez un nombre de patients beaucoup plus faible.
Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être la suspicion, le doute chez les Français, hein, avant la première vaccination, et peut-être même après, d'être un peu les cobayes, tu vois, de faire office d'essai pour des gros. Hein. En plus,
oui,
on parle quand même de Pfizer, qui est un gros industriel de la pharmaceutique, et de se dire, mais en fait, votre produit, là, finalement, si jamais je développe des signes secondaires, je suis un cobaye.
Oui, tout à fait, mais quelque part, c'est un peu provocant, mais un médicament qui est mis sur le marché, et tout le monde peut dire ben, « je suis le cobaye parce que j'ai jamais suffisamment de connaissances sur les effets de ce médicament ». Mais pourtant, quand on est malade, on s'occupe de soigner le mal. Qu'il y ait des effets indésirables, ça marche avec tous les médicaments. Et d'ailleurs, tous les médicaments font l'objet d'une surveillance constante. Mmh. Évidemment, quand ils sont commercialisés depuis 40 ans, on découvre un peu moins de choses. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en France, il y a une suspicion vis-à-vis des vaccins. On l'avait vu quand il avait fallu rendre obligatoires les vaccins infantiles en 2016-2017. Il y avait eu, pareil, des polémiques sans fin sur l'aluminium dans les vaccins, sur le ceci, cela.
Il y a un terreau,
c'est ce que tu nous dis.
Et qu'en est-il de la surveillance ? Tout à l'heure, je te demandais comment avaient réagi les autorités de pharmacovigilance suite à l'arrivée, on va dire, de ces nouveaux vaccins. Mais en quoi consiste cette surveillance au quotidien ? Que ce soit lors du lancement d'un produit, puis sur sa durée de vie normale ?
L'objectif d'une pharmacosurveillance, c'est d'identifier des effets nouveaux. On a en France un centre de réseau de pharmacosurveillance. Leur objectif à eux, c'est d'identifier des effets qui n'ont pas été identifiés au préalable dans les essais cliniques menés. La plupart des effets indésirables qui sont fréquents, prends l'exemple la douleur au bras. Après la vaccination, on s'est tous fait vacciner, on a mal au bras pendant 2, 3, 4, 5 jours.
La petite boule sous la peau.
La petite boule, on a de la fièvre. Voilà, tout ça, ce sont des effets indésirables au même titre que d'autres, mais qui sont fréquents, qu'on rencontre à chaque fois et que, évidemment, dans les essais cliniques, ont été parfaitement documentés. Là, l'objectif, c'est d'identifier des effets qui n'ont pas été identifiés dans les essais cliniques, soit parce qu'il n'y avait pas assez de patients. En l'occurrence, on parle d'essais cliniques avec 30 à 50 000 personnes incluses. Quand on vaccine des millions de personnes, 900 millions en Union européenne notamment, statistiquement, on va voir des choses apparaître qu'on n'a pas pu voir sur ces essais cliniques. Si on a un effet indésirable qui intervient chez une personne sur 500 000 vaccinés, c'est très compliqué de le voir sur un essai clinique. Évidemment, sur une population de 900 millions de personnes, ça peut apparaître. Mais ce n'est pas facile à trouver.
Alors, dès la première campagne de vaccination, puisqu'on sait qu'il y en a eu plusieurs, on a entendu beaucoup de choses sur les effets indésirables provoqués cette fois par les vaccins. Sur les 200 000 cas déclarés à l'Agence nationale de la sécurité du médicament, qu'on va abréger ANSM, qu'est-ce qui ressort, Hugo ?
En France, c'est 160 millions de doses injectées. On avait 200 000 cas déclarés donc en juillet 2023. Sur ces 200 000, un cas déclaré ne veut pas dire que c'est un cas authentifié. On peut déclarer un symptôme, mais ce n'est pas parce qu'il est déclaré qu'il est dû au vaccin. Et ça, c'est à l'enquête clinique, aux études épidémiologiques de le déterminer. Est-ce que ce symptôme déclaré ou cette maladie est plus fréquente chez les personnes qui ont été vaccinées que chez celles qui ne l'étaient pas avant le Covid ? Puisque dorénavant, on a 90% de la population française qui a été vaccinée. Donc, il faut comparer aussi avec les données qu'on avait avant. Ce qu'on peut dire sur ces 200 000 cas déclarés, c'est qu'il y en avait 25% qui étaient classés comme graves. À peu près 50 000 qui sont graves, 150 000 qui ne sont pas graves.
Ce qui n'est pas rien quand même. Hein.
Ce qui n'est pas rien, mais ce n'est pas parce qu'ils sont graves qu'ils sont dus au vaccin non plus. La difficulté de la pharmacovigilance, c'est de mener cette enquête clinique d'abord auprès des patients déclarants, alors que ce soit les patients qui déclarent ou que ce soit leur médecin ou leur pharmacien. Mais donc, ça veut dire recueillir un maximum de données. Quels sont leurs antécédents médicaux ? Est-ce qu'ils prennent d'autres médicaments en même temps ? Il faut faire le tri dans tout ça et c'est là que les réseaux de pharmacovigilance ont eu beaucoup, beaucoup de travail parce qu'ils recevaient toutes les déclarations, même, bon, ça peut être des déclarations farfelues. On m'a donné cet exemple, on disait « Ah ben, j'ai divorcé d'avec mon mari ou d'avec ma femme parce que le vaccin m'avait rendu irritable ».
Le confinement a rendu tout le monde irritable.
Oui, voilà, le confinement a rendu tout le monde irritable. Mais n'empêche que ça, eh ben, c'est quelque chose qui est exploré quand même. Et une fois qu'on a fait l'enquête clinique chez les patients, on a le cas déclaré, on le classe s'il y a quelque chose de suspect comme un signal probable. Et ces signaux probables, il faut les confirmer sur des études épidémiologiques à large échelle.
C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est revenu assez vite sur le vaccin, c'est les thromboses. Alors les thromboses, pareil, là encore, t'hésites pas à me corriger, c'est des petits caillots qui se forment dans le sang. Et là, il y a eu un cas avéré, hein, c'est celui du vaccin plutôt traditionnel, hein, adénovirus, qui était un vaccin qui est conçu par AstraZeneca. Il y a eu de nombreux problèmes, notamment chez les moins de 55 ans. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Que dit la NSM ?
Tout à fait. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement, donc dès le printemps 2021, les vaccinations commencent avec AstraZeneca. Il n'intervient pas avant février-mars. Donc dès le printemps, avril-mai, on se rend compte qu'il y a des cas de thrombose chez les moins de 55 ans. Et donc, on se dit, ah tiens, les centres de pharmacovigilance recevaient pas beaucoup de déclarations, mais plus que ce qui devrait être normal. Mmh. Et donc là, une alerte est lancée au niveau européen. Chaque pays européen observe ça. Et l'effet a été confirmé avant l'été, ce qui a permis de dire, eh bien, ce vaccin-là, on va le réserver pour les plus de 55 ans, chez qui ce risque de thrombose n'apparaît pas aussi clairement. Et donc, les personnes qui attendaient le vaccin classique parce que l'ARN leur faisait peur, etc., on s'est rendu compte que, bah, oui, d'accord, mais pas chez les moins de 55 ans, et que chez les moins de 55 ans, il valait quand même mieux un vaccin ARN parce que le risque était moins important.
On va continuer avec un autre vaccin encore classique, hein, adénovirus. Là, cette fois, c'est celui qui est développé par un autre laboratoire, Janssen. Il avait un gros avantage, c'était de se cantonner à une seule dose. Mais finalement, ça a été abandonné. Pourquoi ?
Oui, alors quand il est arrivé, on s'est dit, ah bah tiens, moi je me souviens, j'avais un collègue qui l'a fait.
Donc je parle d'expérience.
Qui l'a fait en se disant, ah bah tiens, une dose, voilà, bah, c'est tranquille, ça fait un rendez-vous en moins. Il était très pratique. Et puis, au cours de l'été, en août, les centres de réanimation ont fait remonter au centre de pharmacovigilance que statistiquement, encore une fois, ils avaient un peu plus de personnes qui avaient été vaccinées par ce vaccin que de personnes vaccinées par d'autres ou pas vaccinées. Et que donc, peut-être que le vaccin Janssen unidose n'était pas suffisamment immunisant. Et il s'est avéré qu'immédiatement, dès septembre, il était recommandé de faire une deuxième dose avec un autre vaccin pour, en l'occurrence, les ARN messagers, parce qu'eux posaient quand même moins de problèmes, et donc de doubler cette dose et que le vaccin ne suffisait pas. Ce que ça montre, ces petits exemples, c'est qu'il y a une surveillance qui permet d'ajuster la politique vaccinale. Et je pense que c'est important parce que on s'imagine que on pourrait cacher des effets secondaires, mais c'est l'intérêt de personne. Et même dans les centres de pharmacovigilance, quand ils trouvent un nouvel effet indésirable, c'est mal d'avoir des effets indésirables, mais n'empêche que c'est satisfaisant parce que ça veut dire que l'enquête a été menée et qu'elle a été bien menée et que les gens sont contents d'avoir bien fait leur boulot.
Oui, et puis derrière, ça permet non seulement d'ajuster la politique vaccinale, mais aussi de prévenir, en gros, les populations qui pourraient coller avec les premières victimes de cet effet indésirable, qu'elles pourraient être sujettes à ces mêmes conséquences et auquel cas, donc, soit leur donner l'information en amont, soit les orienter vers un autre médicament.
Tout à fait.
On continue notre petit inventaire des effets secondaires, mais là, on va parler du virus, puisqu'il a été très vite accusé de s'attaquer au cœur, et là je parle bien de l'organe, des patients, notamment chez les nouveau-nés, avec la maladie de Kawasaki. Ça, c'est un effet avéré du Covid, donc du virus SARS-CoV-2. Qu'en est-il du vaccin? Puisque là aussi, c'est quelque chose qui lui a été souvent attribué. On a dit, le vaccin peut fragiliser le cœur des patients.
Oui, tout à fait. À l'été 2021, il est identifié un risque d'inflammation du muscle cardiaque, qu'on appelle myocardite ou péricardite quand ça concerne le péricarde. Il est d'abord identifié avec le vaccin Moderna chez les moins de 30 ans. Donc là, pareil, qu'est-ce qui se passe? On dit le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans, c'est niet. Vous prenez Pfizer ou un autre. Et avant la fin de l'année, cet effet indésirable est confirmé pour l'ensemble de la population vaccinée, que ce soit avec le Pfizer ou le Moderna. Ça fait partie des effets indésirables identifiés durant la campagne de vaccination qui n'avait pas été au moment des essais cliniques.
C'est un risque des vaccins, mais qui est bien plus faible chez les personnes vaccinées que ceux qui souffrent directement du Covid sans être vaccinés.
Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'infection par le Covid, elle a... Donc, on tousse, les poumons, on a beaucoup parlé de tout ça. Mais il y a aussi une atteinte vasculaire. Ça crée des micro-caillots dans les vaisseaux sanguins. Et ça, c'est l'infection Covid qui fait ça. Et dans le calcul, on se rend compte qu'une infection par le Covid a 7 fois plus de risque de myocardite qu'une vaccination, ce qui permet de calculer qu'il vaut mieux se faire vacciner malgré le risque très rare de myocardite plutôt que de se faire infecter avec un risque qui est rare quand même,
mais qui existe,
est 7 fois plus important. Donc après, on choisit ses risques, mais clairement, l'infection reste toujours plus dangereuse que le vaccin.
Et parmi les autres effets secondaires inattendus, tu évoques une hypertension artérielle ou des saignements menstruels importants. À quel point le lien entre ces symptômes et la vaccination est-il avéré?
Il est en cours d'investigation. Tant que les choses sont en cours d'investigation, il est difficile de se prononcer. Dans les centres de pharmacovigilance, on peut confirmer un signal, dire oui, ça c'est sûr. Et puis quand il n'est pas confirmé, on ne peut pas dire que ce n'est pas dû à ça. Donc il faut aussi savoir suspendre son jugement et dire là on ne sait pas, c'est possible. Après, ce qu'on peut dire sur les saignements menstruels importants, ça a été confirmé. Il se trouve que ça a été, au moment où j'ai écrit mon papier, il n'était pas encore complètement validé au niveau européen. C'est le cas depuis 2-3 semaines. Donc ça a été validé. Pareil sur les troubles du rythme cardiaque, c'est pas encore validé, mais il y a pas mal d'équipes sur la pharmacosurveillance qui misent très fort dessus. Le problème, c'est que ce sont des risques tellement rares que pour les confirmer, il faut des études épidémiologiques qui sont parfois un peu longues, un peu complexes statistiquement. Il faut dire est-ce que oui, non, hein.
Tu évoques des troubles de l'audition,
oui.
Acouphènes, perte auditive, également déclenchement potentiel d'un zona,
oui.
Ou de troubles du rythme cardiaque.
Oui, les troubles du rythme cardiaque, typiquement, sont probablement dus au vaccin, mais très très rares et ils ne sont pas encore confirmés. Pareil pour les acouphènes ou les troubles d'audition, mais il y a un rationnel qui fait dire aux équipes de pharmacovigilance que c'est possible.
Oui, là on parle quand même d'effets à court terme, c'est-à-dire que vous avez été vacciné en 2021-2022, ça ne va pas se déclencher en 2024, et dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des effets qui disparaissent.
Oui, tout à fait, tu as raison de le rappeler. Il y a un truc avec les vaccins. Les effets indésirables d'un vaccin vont se déclencher dans les jours, les semaines, voire les 2 mois qui suivent. Au-delà, il n'y a jamais eu d'effets confirmés qui surviennent 2 mois après. Donc, si vous avez été vacciné et que ça va bien depuis 1 an, a priori, vous êtes tranquille.
Sortie d'affaires. À quel point tous les effets secondaires, donc il y a 200 000 cas qui ont été rapportés à l'ANSM, des malades graves, d'autres moins, à quel point ces occurrences ont-elles pesé, ou continuent-elles de le faire peut-être, dans la balance bénéfice-risque de la vaccination contre le Covid ?
C'est très simple, c'est qu'on a plus de risques d'avoir de problèmes de santé en n'étant pas vacciné qu'en l'étant. Et ce, quels que soient les âges. C'est important de le dire parce qu'on se dit « oui, mais le Covid, c'est quand même rarement grave chez les personnes jeunes ». Et c'est vrai, 95% des cas, même plus chez les jeunes, le Covid passe relativement correctement. Mais ce risque faible de Covid grave reste plus élevé que le risque très faible d'effets indésirables des vaccins. Par ailleurs, ça a été beaucoup reproché aux vaccins, ils n'empêchent pas la transmission comme le fait le vaccin de la rougeole, auquel voilà, il y a une figure totémique un peu du vaccin de la rougeole où on est piqué une fois ou deux dans sa jeunesse et on n'entend plus jamais parler de cette maladie. En effet, il est imparfait sur la transmission. Donc, à partir du moment où on vaccine le maximum de personnes, on réduit malgré tout le risque de transmission du virus.
J'ai évoqué très rapidement les décès. Hein. Comment on s'assure que les vaccinés au Covid qui sont morts l'ont été ou pas à cause du vaccin ?
Eh ben, c'est une question que j'ai posée au docteur Aurélie Grandvillemain, et c'est très, très compliqué. D'abord parce que la plupart des cas de décès qui ont été remontés l'ont été chez des personnes âgées, en particulier dès les premiers mois après le début des vaccinations, c'était dans les EHPAD. Une personne de 95 ans se fait vacciner, et puis une semaine après, elle meurt. Ben, c'est très difficile de savoir est-ce que c'est dû au vaccin ou pas, parce que généralement, ce sont des personnes qui ont des antécédents médicaux assez importants, qui sont en fin de vie. Et dans ce cas-là, il faut éventuellement demander une autopsie. Sauf que ce n'est pas les médecins qui décident de l'autopsie. Il faut que l'affaire soit portée en justice. C'est-à-dire que c'est souvent les médecins dans les centres de pharmacovigilance auraient aimé avoir accès à une autopsie et qu'elle leur était refusée, soit par la famille, soit parce qu'il n'y avait pas saisi judiciairement. Donc le cas des décès est assez compliqué. Il n'y en a pas d'avéré. Mais c'est possible que certains aient pu être causés par une thrombose, mettons une thrombose chez une personne âgée ou une myocardite chez quelqu'un qui a le cœur plus fragile que d'autres. Le décès pourrait être attribué au vaccin, mais tant qu'on n'a pas la preuve qu'il peut l'être, eh ben on ne peut pas trancher. Ça concerne quelques dizaines de personnes, hein, maximum.
On a évoqué le sujet de la France qui est un terreau fertile, on va dire, par rapport aux doutes. Et c'est bien de douter, hein, que ce soit rapport au vaccin ou à d'autres médicaments ou d'autres choses. Mais là, nous enregistrons cet épisode quelques jours après le décès d'Alexei Navalny, hein, avocat et grand opposant à Vladimir Poutine. Sa mort soulève de nombreuses suspicions et certains évoquent le fait qu'il était vacciné et que c'est peut-être le vaccin contre le Covid qui l'a tué.
Oui, alors je pense qu'il a été vacciné il y a un petit moment, Navalny. Par ailleurs, en science, on a le rasoir d'Occam. On a tendance, en l'absence de preuves, de se tourner vers
l'explication la plus simple.
L'explication la plus simple, la plus plausible. Pas sûr que dans le cas de Navalny, le vaccin soit la plus plausible en l'espèce.
N'en déplaise aux complotistes.
Je pense qu'il y a d'autres pistes à explorer.
Merci beaucoup Hugo, je te dis à très bientôt et moi je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour un nouvel épisode de 6ème Science où on enverra de la science dans tous les sens.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.